Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
L'Institut Montaigne est à regarder de près où on en est sur la mise en place du rapport Draghi. Est-ce que l'Europe est au rendez-vous? 567 recommandations précises émises par Mario Draghi en septembre 2024 sur les questions de compétitivité européenne. On en parle avec notre invité François Schmitt. Bonjour, vous êtes responsable du programme Europe à l'Institut Montaigne. Sur ces 567 recommandations, on en est où? C'est quoi le pourcentage de mise en place?
Alors, le taux de mise en œuvre qu'on a analysé et trouvé est d'environ 30%. Ce qui, 18 mois après environ l'entrée en vigueur, ou en tout cas la publication formelle du rapport, reflète plutôt les temps de passage, à la fois, on va dire, des traditions européennes en matière de production de réformes, production législative, mais aussi les temps de passage que M. Draghi avait établi lui-même dans son rapport. C'était un élément...
Donc c'est pas si mal en fait.
Et c'est en effet ce qui nous est apparu, c'est que contrairement à la petite musique un peu défaitiste de « il ne se passe rien en Europe, les Européens ne bougent pas », quand on regarde concrètement la production législative en cours, les choses sont assez différentes. Après, la question à poser, c'est « a-t-on encore ce temps-là ?» Et là, forcément, on apporte un éclairage un peu différent, un peu moins positif.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder ce rythme. C'est-à-dire qu'il faut accélérer sévèrement.
C'est que depuis la publication du rapport Draghi, on a eu quand même la confirmation de la révolution technologique de l'IA, le second mandat Donald Trump, avec les implications en termes de sécurité pour les Européens, les défis autour du détroit d'Hormuz et le renouvellement des chocs énergétiques. Et hélas, on constate cette accélération du monde d'un côté et une Europe qui continue sur des temps de production et de réforme qui sont ceux d'un peu de l'ancien monde, d'une certaine manière.
Annalisa.
Ce que vous soulignez dans le rapport, c'est que les réformes mises en œuvre sont celles qui étaient plus faciles, finalement, à faire. Est-ce que ça veut dire qu'on va bloquer après?
Alors, c'est un peu un truisme de dire qu'on a commencé par le plus simple, mais ça permet quand même de rappeler qu'on a fait des choses, ce que souvent en France, on tend un peu à omettre. En revanche, l'autre élément important, c'est qu'on a aussi constaté qu'environ 60% des recommandations vont être formellement en négociation entre Européens dans les 18 prochains mois. Et donc, plutôt que l'analyse de « on ne fait rien », l'élément qui nous paraissait le plus valable était de dire « on est dans le moment décisif de la mise en œuvre ». Ensuite, on essaie d'apprécier à quel point les Européens vont faire ce qu'il y a dans le rapport par rapport aux discussions qui sont en cours. Et là, c'est vrai que la perspective est un peu plus nuancée. On estime que dans 12-18 mois, si les choses se passent comme elles doivent se passer, on aura fait environ 50-60% du rapport. En revanche, et c'est là que le bât blesse un peu, les éléments les plus structurants, les plus fondamentaux, si
donc
rien ne change...
C'est l'union des marchés de capitaux, c'est des éléments comme ça.
Exactement.
En fait, il n'y a pas une unanimité totale européenne.
D'une part, et puis les grosses réformes prennent du temps. C'est assez naturel pour faire des... gros changement, il faut que vous discutiez plus, il faut que vous réfléchissiez plus et il faut que vous proposiez des choses plus substantielles. Et donc, par exemple, si on prend l'union de marché des capitaux, c'est plutôt l'une des dynamiques où on estime que les choses pourraient se décanter. On voit notamment une initiative autour des six grandes économies européennes.
Avec des volontaires, c'est ça qui marche.
Voilà, et il est probable, et de manière générale, sur un certain nombre des grandes réformes structurantes, il sera délicat d'avancer à 27. Et donc, les Européens vont devoir trouver une méthode, de trouver des compromis qui leur permettent d'avancer plus vite entre ceux qui sont prêts à aller plus vite pour accélérer leur capacité à justement se réformer, à évoluer dans un monde qui, lui, semble de plus en plus dynamique.
Mais c'est quoi sa valeur juridique? Parce que c'est pas un texte de loi, le rapport Draghi, c'est pas comme le pacte vert, c'est pas... C'est quoi sa valeur? On n'est pas obligé de le mettre en œuvre à 100%.
Sa valeur juridique est tout simplement nulle. Sa valeur politique, elle est celle qu'on veut bien lui donner. Ça a été une commande faite par Mme von der Leyen quand elle était présidente de la précédente commission, et ça a été, on va dire, assez largement endossé par l'ensemble des États membres. Et donc vous avez aujourd'hui, à la fois au niveau des États membres, le Conseil, et à la fois au niveau de la Commission, le rapport Draghi qui sert un peu de feuille de route, de tableau de bord.
Donc il y a une sorte d'unanimité quand même, globale.
Ça a été peut-être la plus grande vertu du rapport, ça a été de catalyser à la fois un consensus sur la réalité de notre décrochage et, on va dire, une adhésion d'ensemble aux axes de réforme à entreprendre. Et on est dans ce moment où les réformes sont lancées, elles arrivent sur le plan de travail, et il va falloir qu'en européen, on trouve des compromis. Les compromis, ça demande aussi du capital politique auprès de ses opinions nationales, pour faire des concessions.
Au mieux être fraîchement élu que d'être en fin de mandat. C'est plus simple. Annalisa.
Justement, vous parlez d'une Europe des volontaires pour faire avancer les choses. On a vu la semaine dernière la rencontre entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Est-ce que c'est la bonne stratégie de se voir comme ça en bilatéral pour essayer d'avancer plus vite sur certains dossiers?
franchement, il faut qu'on fasse feu de tout bois. Et donc, bien évidemment, il faut à la fois qu'on multiplie les discussions bilatérales et qu'on accélère la capacité à discuter à 27. Il y a eu des avancées dans ce sens. On a vu le Conseil et la Commission se mettre d'accord sur un plan législatif pour 2026 qui est extrêmement intense, et un Parlement européen qui rappelle qu'il faut quand même tenir qu'il faut aussi tenir des obligations démocratiques, de transparence, de temps de discussion, mais qui largement suit. En revanche, là où on a une vraie difficulté, c'est que les instabilités ou les faiblesses politiques des différents leaders européens au niveau national rend plus délicat la capacité à faire des compromis, parce que ce sont des choses qui risquent de vous être reprochées au niveau de votre opinion publique. Et là-dessus, à la fois les Allemands, mais en premier lieu les Français, connaissent une très grande difficulté. Pour être très précis, très concret, nos partenaires n'ont pas nécessairement envie de s'engager dans des grands sauts en avant avec une France qui, après-demain, pourrait être gouvernée par
Rassemblement national. C'est le capital politique ou c'est notre niveau de dette qui pose problème dans notre capacité aujourd'hui à négocier en Europe ?
Alors, le niveau de dette français, en particulier, est en effet un vrai point bloquant sur tout ce qui va être la dimension d'endettement commun et de financement commun. Quand vous avez le principal supporter d'une dette commune et d'efforts financiers communs qui n'a plus de capacité budgétaire, qui lui-même est en grande difficulté, forcément, ça vous coupe un peu les jambes pour aller de l'avant. Ajoutez à cela le fait que nous avons déjà fait une dette commune en européen. Ça a été la grande avancée du plan de relance Covid. Or, cette dette commune, on n'est toujours pas capable de se mettre d'accord sur comment la rembourser. Et c'est vrai que Berlin, on va dire, qui fait un peu figure de principal opposant sur ces questions-là, a beau jeu de nous rétorquer, vous êtes gentils avec la nouvelle dette commune, mais d'abord, mettons-nous d'accord sur comment on rembourse celle qu'on va devoir commencer à rembourser l'an prochain.
C'est quoi pour vous la mesure la plus marquante, là, le 28e régime, peut-être ? Ça montre quand même qu'on a pu s'accorder sur quelque chose ?
Je pense que la plus marquante, ce sera quand même la préférence européenne.
Ouais.
Alors forcément, nous avons une vision très nationale de comment doit se faire une réforme. On attend un grand texte qui opère une grande réforme. C'est pas tout à fait comme ça que les choses marchent en Europe. Mais ce qu'on voit, c'est que dans l'ensemble des textes où cela est possible de le faire, on voit émerger l'acceptation d'une forme de préférence pour les produits et les entreprises européennes dans nos marchés publics, dans nos financements industriels. Et ça, c'est une vraie rupture conceptuelle. Ce sera pas un texte, il y a l'accélérateur industriel qui va porter un grand pan de ces préférences européennes, mais ce ne sera pas un seul texte qui le fera réellement entrer en vigueur.
Puis c'est un peu secteur par secteur.
Ce sera tous les financements européens, tous les financements publics. On voit déjà en France des choses arriver du côté des médicaments, par exemple, qui vont pouvoir discriminer en faveur de nos productions nationales pour justement s'assurer que dans un certain nombre de secteurs critiques, l'argent public européen sert à développer des ressources européennes.
Merci beaucoup François Chimite d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie, responsable du programme Europe à l'Institut Montaigne.